Nous lisons dans la parole de Dieu. Nous lisons dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 26. Du premier verset au verset 18. Actes des Apôtres 26, du premier verset au verset 18.
Agrippa dit à Paul, il t'est permis de parler pour ta défense. Et Paul, ayant étendu la main, se justifia en ces termes. Je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi de toutes les choses dont je suis accusé par les Juifs, car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions. Je te prie donc de m'écouter avec patience. Ma vie, dès les premiers temps de ma jeunesse, est connue de tous les Juifs, puisqu'elle s'est passée à Jérusalem au milieu de ma nation. Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu pharisien, selon la secte la plus rigide de notre religion. Et maintenant, je suis mis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères et à laquelle aspirent nos 12 tribus, qui servent Dieu continuellement, nuit et jour. C'est pour cette espérance, ô roi, que je suis accusé par des Juifs. Quoi ? Vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts ? Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints, ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs, et, quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues, et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais, même jusque dans les villes étrangères. C'est dans ce but que je me suis rendu à Damas, avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Je répondis « Qui es-tu, Seigneur ? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. »
Et on peut lire aussi le verset 19.
« En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. »
À ceux de Damas.
« À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens. J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. »
Amen. Donc le Seigneur nous appelle à travers ce texte, donc au verset 16, il est dit « Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. » Là, il parle à Paul, mais dans Actes des Apôtres, au chapitre 1, verset 8, il dit, attendez, vous recevrez une puissance à Jérusalem, hein, lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous, et vous serez mes témoins. Voilà, là, il parle à tous ses disciples, donc à nous tous. Il veut que nous soyons ses témoins, les témoins de Jésus. C'est ça notre exhortation de ce matin, que nous soyons des témoins du Seigneur, des témoins de Jésus. Et témoigner de quoi ? Mais de ce qu'on a vécu, parce que le témoin il parle de ce qu'il a vu, de ce qu'il a vécu. Donc c'est ce que le Seigneur lui dit. Il dit au verset 17, je t'ai choisi, au verset 16, d'établir ministre témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Donc on est témoin des choses qu'on a vécues, qu'on a expérimentées. Et on n'est pas, c'est ce qu'on va, dont on va parler là, donc on n'est pas, on ne défend pas une cause. Témoigner de Jésus, ce n'est pas défendre une cause comme l'écologie, comme le pétrole, je ne sais pas quoi. C'est parler de ce qu'on a expérimenté, ce qu'on a vécu. Tout chrétien est appelé à cela, à être témoin de Jésus, par son comportement et par ses paroles, par son comportement et par ses bonnes actions, par son comportement et par les prophéties qu'il peut sortir. Il est appelé à être témoin de Jésus, dire ce qu'il a vécu. Et Jésus dit, pour d'autres choses pour lesquelles je t'apparaîtrai, tu seras aussi témoin. Et annoncer aussi ce que Jésus attend. Voilà ce qui est, ce qu'est être le témoin du Seigneur. Et le Seigneur nous appelle tous à être ses témoins, à dire ce qu'on a vécu, à parler de notre histoire avec lui. C'est ça le témoignage. Souvent, cette affaire-là a été comme une épine pour beaucoup de chrétiens qui disent, mais je ne sais pas parler, je ne sais pas faire ceci, j'ai honte. Mais en réalité, c'est parce qu'on veut trouver quelque chose à dire selon l'intelligence humaine. Il suffit juste de dire sa propre histoire. Donc Paul se retrouve devant Agrippa, qui dit, mais défends-toi, il t'accuse. Toi, défends-toi. Quel est le problème? Et c'est ce que Paul explique. Il dit, mais moi, j'étais parmi les gens qui étaient contre cette foi-là, contre Jésus. J'ai servi comme pharisien, comme ceux-là qui me combattent aujourd'hui. J'étais parmi eux, comme ceux-là qui me combattent. J'ai attaqué Jésus. J'enfermais les chrétiens en prison. Voilà mon histoire. Il dit, j'avais cru devoir, au verset 9, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. Il était contre Jésus. Et verset 10, il explique, c'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints, ayant reçu le pouvoir, ce pouvoir des principaux sacrificateurs. Et quand on les mettait à mort, je soutenais ça. Je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues. Je poursuivais les chrétiens même dans toutes les synagogues. Et je les forçais à blasphémer. Un vrai persécuteur des chrétiens. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. Voilà jusqu'à quel niveau Paul persécutait les chrétiens, jusqu'à les poursuivre dans les villes non juives, dans les villes étrangères, les étrangères. C'est dans ce but que je me rendis à Damas, avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Paul dit, c'est dans cette continuité, dans la continuité de cela, que je me rendis à Damas. Je me suis rendu à Damas pour continuer mon œuvre de persécution des chrétiens. Mais vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur ? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. » Amen. Donc Paul allait pour persécuter les chrétiens et voilà qu'une grande lumière paraît sur son chemin. Il tombe, il reconnaît, il pose la question, mais qui es-tu, Seigneur? Le Seigneur dit, c'est moi, Jésus, que tu persécutes. C'est ça l'histoire de Paul. Maintenant, il dit au roi Agrippa, il dit, roi, maintenant, devant une telle vision, comment pourrais-je, moi, m'arrêter? Comment pourrais-je, moi, ne pas parler de ce que j'ai vu? Vous savez, quand on a fouetté les Paul, les Pierre, les autres disciples, Paul n'était pas encore dans ce groupe-là. On leur a dit, dans Actes 4, 19, on leur a dit, il ne faut plus parler de Jésus. Ils ont dit, mais comment on peut se taire et ne pas parler des choses que l'on a vécues, qu'on a vues? C'est ça, être témoin. C'est simple. C'est dire ce que on a vécu avec le Seigneur. C'est notre histoire avec le Seigneur. Comment puis-je me taire? Comment puis-je me taire? Il y a Esther Gulshan, la Pakistanaise qui était handicapée, infirme. Lorsque Jésus lui est apparu la nuit et qu'elle a retrouvé le fonctionnement de tous ses membres, le matin, quand elle dit à sa tante, c'est Jésus qui m'a guéri. Sa tante dit, c'est bien que tu sois guéri, Gulshan, mais ne dis pas que c'est Jésus, tu vas nous créer des problèmes ici. Nous sommes des musulmans. Mais quelle a été la réponse de Gulshan à sa tante? Il dit, Tati, mais c'est Jésus qui m'a guéri. Tu veux que je dise quoi? Si je ne dis pas que c'est lui qui m'a guéri, je l'ai trahi. Comment je peux me taire? Pendant 19 ans, j'étais infirme, impotent. On me nourrissait, on me lavait. Je ne pouvais, mes membres étaient atrophiés. Et Jésus me guérit. Mais comment puis-je me taire et ne pas dire que c'est lui qui m'a guéri? Au fait, c'est ça le témoignage. C'est qu'on est rongé. On est rongé par notre histoire avec le Seigneur. Ça nous démange de raconter ce qu'il a fait pour nous. L'évangélisation, c'est dire la parole de Dieu, c'est vrai. Mais c'est motivé par sa vie personnelle avec le Seigneur. Il dit, pour les choses aussi pour lesquelles je t'apparaîtrai, non seulement que tu as vu, mais pour lesquelles je t'apparaîtrai. Donc au jour le jour, le Seigneur continue à nous apparaître, à agir dans nos vies. Et ça permet un lien avec ce qu'il a déjà fait autrefois. Et ça nous permet de toujours témoigner. Témoigner doit être naturel. Témoigner vient du fond du cœur. Je suis tellement heureux de ce que Jésus a fait pour moi. J'en parle. Nous sommes tous appelés à ça. Vous savez pourquoi c'est devenu difficile? C'est devenu difficile parce que c'est devenu comme une sorte d'activité technique. On doit faire ceci, faire cela. Donc on commence à compliquer. Vous savez, à chaque fois que l'homme complique, il s'éloigne de Dieu. Il est écrit dans Ecclésiaste 7, 29, Dieu a frayé les choses droites, mais c'est l'homme qui cherche les détours. Paul se retrouve devant Agrippa. Il va dire quoi? Il dit, mais c'est comme ça. C'est ça mon histoire, roi Agrippa. Et c'est ça qui fait que... C'est ça qui fait quoi? Au verset 19, en conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion. Amen. Paul dit, pressé par cet amour. Dans un autre verset, il dit, nous sommes pressés par l'amour du Seigneur. Pressé par cet amour, pressé par son vécu avec le Seigneur, il a commencé à parler. Bien-aimé, je parle de ce sujet, mais je fais une mise au point en même temps. Je tiens à nous dire que nous ne sommes pas les seuls à parler. Il y a des gens qui nous appellent même au téléphone pour vendre des choses. Il y a toutes sortes de personnes qui parlent pour soutenir une cause. Mais la grande différence, c'est que nous, nous parlons de l'intervention céleste. Nous ne parlons pas d'une cause humaine, l'indépendance d'un pays, l'égalité de salaire entre hommes et femmes. Mais qu'est-ce que ça va faire? Il y a des femmes qui sont plus riches que les hommes. Alors, ça fait quoi? C'est des causes, ça existe. Il y a des gens qui sont dévoués pour tout ça. Je voudrais qu'on fasse une différence entre un chrétien qui va évangéliser aussi parfois, mais il le fait comme s'il défendait une cause. Mais ce n'est pas lié à l'amour, à la transformation que Christ a opérée dans sa vie. Il n'a pas d'histoire avec Jésus. Nous avons tous une histoire avec le Seigneur. Parce que quand le Seigneur nous a sauvés, c'est une intervention céleste qui est arrivée. Bien, mais ce n'est pas que notre histoire doit ressembler à Paul. Nous, on n'a pas persécuté, certains d'entre nous n'ont pas vraiment persécuté l'Église comme Paul. Notre histoire, chacun est particulière pour chacun. Mais nous avons tous une histoire qui nous montre que le ciel est descendu sur terre pour nous. C'est cette histoire-là qui va être la source de notre motivation pour dire à tous, vous ratez quelque chose. C'est ce qui animait Paul. Paul allait partout pour dire, mais oui, j'ai rencontré le Seigneur. J'ai rencontré le Fils de Dieu. Donc quand il se retrouve à Athènes, il voit toutes les statues, il voit même une statue, c'est écrit à un Dieu inconnu. Il dit, Jean d'Athènes, je vois que vous êtes religieux, vous cherchez Dieu, mais celui que vous cherchez là sans le connaître, moi je l'ai rencontré. Sur la route de Damas, je l'ai rencontré. Il a transformé ma vie. D'ailleurs, moi, j'ai persécuté ses disciples à lui. C'est ça notre histoire. La personne que vous cherchez là sans comprendre, moi, je l'ai rencontré. Lorsque Ali est parti à la Mecque pour chercher Dieu, finalement, à la Mecque, Jésus-Christ lui apparaît. Et Jésus-Christ lui dit, tu sors d'ici. Tu vas être maintenant mon témoin. Lorsqu'Ali revient chez lui, bien, mais c'est ça le témoignage. Ne compliquons pas les choses. Seul l'Esprit Saint peut convaincre le cœur. Mais il nous demande à nous de témoigner, de dire notre histoire. C'est la simple reconnaissance. Dis ton histoire. Même si tu ne vas pas dire les mêmes mots comme Paul. Mais dis aux gens ce qui... Tu as expérimenté, tu as rencontré le véritable Dieu. Maintenant, quand eux ils vont te poser la question, mais comment tu sais que c'est le véritable? Allez, tu commences à expliquer. Voilà ce que j'étais. Et un jour, c'est ce que Gulshan expliquait. Quand on lui demandait pourquoi Jésus, elle expliquait. J'étais infirme, ça faisait 19 ans. J'ai crié à Dieu et la voix de Jésus m'a répondu. Pendant 3 ans, il ne m'a pas guéri. Et la 3e année, il m'est apparu la nuit. Il m'a guéri. Jésus-Christ est l'amour de ma vie. Voilà ce que Gulshan dit toujours. Il est tout pour moi. Le Seigneur des Seigneurs. L'alpha, l'oméga. Le commencement et la fin. Et ce Jésus-là peut vous sauver aussi. C'est ça témoigner. On a une histoire. Une histoire de salut. Quand je parle d'histoire, il ne s'agit pas forcément de quelque chose d'époustouflant comme Gulshan Esther ou bien comme Paul. Mais ça reste des choses glorieuses parce que bien aimé, pour gagner un cœur, c'est toujours compliqué. Un cœur est complexe. Le cœur de Paul n'était pas plus complexe que mon cœur. Mais sa situation à lui a demandé cette intervention, l'intervention de ce genre-là. Mais il y a des gens qui sont encore plus durs que Paul, mais ils n'ont pas vu Jésus comme Paul. Mais ils ont reçu l'intervention du ciel qui les a débloqués afin qu'ils croient. Comme cet homme dont le témoignage aussi se trouve sur Internet, qui était responsable de la section de la formation des imams dans une université d'Égypte. C'était lui le responsable. Mais quand il explique comment il est venu à Christ, ça a été un parcours lent, mais sérieux. Donc Jésus-Christ, pas à pas, était en train de le délivrer de l'islam jusqu'à ce qu'il arrive comme un enfant au téléphone, une voix lui dit, bien, quand il cherche une église, il tombe sur un pasteur Moussa. Mais quand le pasteur Moussa lui dit, bienvenue dans la maison de Dieu, lui dit, c'était pas sa voix à lui. C'était la voix de Dieu qui te dit, bienvenue dans ma maison maintenant. Enfin, il a dit, j'ai trouvé le Seigneur. Voilà, bien-aimé. Il a une histoire. Il dit, mais voilà, j'étais responsable de la section de la formation des imams. On m'a payé le billet pour aller à la Mecque. Je suis parti là-bas. Je n'ai toujours pas rencontré Dieu. Parce que malgré le fait qu'il était responsable de la formation des imams, il sentait un vide à lui. Il sentait que c'est que l'islam n'était pas vrai. Mais il ne pouvait pas. Il allait remplacer ça par quoi? Il sentait que ça n'allait pas. Depuis un moment, il était plus bien avec l'islam. Mais il va changer comment? Toute sa famille est dedans, ainsi de suite. On est en Égypte. Il va faire comment? Mais il n'était pas bien. Il a dit, bon, je vais tenter un dernier coup. Je vais aller à la Mecque. Peut-être là-bas, vraiment, je vais rencontrer le Dieu. Il tente cela, ça ne marche pas. Et quand il revient, il dit à Dieu, ça fait longtemps que je te cherche. Dieu lui dit, va aux États-Unis. Il avait des parents là, des parentés là-bas. Va là-bas. C'est quand il va là-bas que Dieu le rencontre. Cet homme, quand il parle de Jésus, il parle de sa vie. Il dit, mais vous ne pouvez pas savoir dans quoi moi j'étais. Il m'a sorti de quoi? C'est ça qui l'animait. Il dit, mais roi Agrippa, je n'ai pas pu résister à la vision. Voilà, Jésus m'a sauvé. Moi qui étais mauvais, moi qui étais persécuteur des chrétiens. Et depuis, j'en parle. C'est une histoire de salut, une histoire de délivrance. Une histoire de délivrance. Jésus ne t'a-t-il pas délivré? Est-ce que tu as vraiment expérimenté la transformation par Jésus? Si tu l'as vraiment expérimenté, tu ne seras plus en paix. Tu voudras toujours en parler. Tu voudras témoigner. Tu voudras contribuer à tout ce qui permet qu'on témoigne du Seigneur. Même si tu n'es pas au devant de la scène, c'est peut-être toi qui vas filmer. C'est peut-être toi qui vas mettre le micro. Mais il faut qu'on parle. Il faut qu'on dise ce que Jésus-Christ est parce qu'il a fait de grandes choses dans nos vies. Maintenant, nous pouvons parler de ce qu'il est. J'ai une histoire avec lui. J'ai quelque chose à raconter. Une histoire d'amour. Vous vous imaginez Pierre. Il a renié le Seigneur 3 fois. Mais quand Jésus, à la fin, lui dit, si tu m'aimes, paie mes brebis. Pierre est épaté que Jésus-Christ lui redonne la responsabilité. Lui qui l'a renié. Il est saisi d'un amour extraordinaire pour le Seigneur. Il dit, ah, comment il peut m'aimer encore dans ces conditions-là, alors que je l'ai renié. C'est ça l'histoire de Pierre. On raconte, ce n'est pas écrit dans la Bible, on raconte quand on a voulu crucifier Pierre, il avait demandé à ce qu'on le crucifie à l'envers, parce qu'il ne voulait pas être crucifié comme son maître. Il aimait trop son maître, son maître était tout pour lui, il ne voulait pas avoir la même punition que lui. Il voulait lui être crucifié à l'envers. Pourquoi un tel amour? Parce qu'il a renié le maître et le maître l'a pardonné. Il a pardonné. Le maître l'a établi encore berger de son église parmi d'autres bergers. Et quand tu as expérimenté un tel amour, tu as envie d'en parler. C'est ça le témoignage. C'est ce qui fait que Pierre pouvait ressusciter un mort sans problème. Il savait, il connaissait les ressources infinies de l'amour et de la grâce de Dieu. Parce qu'il avait expérimenté ça. On a une histoire avec le Seigneur. Ça doit nous amener à témoigner du Seigneur. On a ça. Nous lisons dans Actes des Apôtres, au chapitre 8. Du premier verset au verset 8.
Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église. Pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe étant descendu dans une ville de Samarie, y prêcha le Christ. Les foules toutes entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville.
Amen. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Bien-aimé, premièrement, c'est son histoire. Quelle est ton histoire avec le Seigneur? Vous savez, un jour, je raconte toujours ce témoignage parce qu'il est important. Un jour, Maurice Ray, après 3 ans de ministère de pasteur, se rend compte que ça ne va pas. L'Église ne progresse pas en rien. Lui-même n'est pas heureux. Alors, il va faire appel à un aîné pasteur. Il parle de son problème. Ils commencent à discuter ensemble. Mais finalement, qu'est-ce qu'on lui dit par l'aîné pasteur? Il lui dit, mais je comprends ton problème, Maurice. Tu n'es pas chrétien, tu n'es pas converti. Il dit, quoi? Mais je suis pasteur, j'ai fait la théologie. On m'a nommé pasteur. Il dit, mais oui, mais ça ne fait pas que tu sois converti. Tu n'as pas d'histoire avec Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Tu ne l'as pas rencontré. Tu as survécu un cursus. Il n'y a pas eu de transformation, il n'y a pas eu de conversion. Tu n'as pas rencontré le Seigneur. Et l'aîné lui explique la réalité. Il lui dit, oui, tu as sympathisé, tu aimes les choses de Dieu, du coup tu as suivi un parcours et puis finalement tu as accédé au poste de pasteur par le système religieux. Mais en réalité, qu'est-ce que tu as raconté du Seigneur? Rien. Maurice Ray me dit, mais ben, aujourd'hui je veux me convertir. D'accord, on va prier. Ils ont prié. Et le soir, quand Maurice Ray ouvre sa Bible, il tombe sur quoi? Éphésiens 4:11. C'est moi qui appelle les apôtres, les docteurs, les évangélistes, les pasteurs, les prophètes. Je les ai établis pour conduire mon troupeau. Et quand il lit ce verset, il y a comme une puissance qui vient du ciel qui entre en lui. Il comprend que c'est là maintenant que Dieu l'appelle. Il a maintenant une histoire. Il sait dans quoi il était maintenant, dans quoi Jésus l'a amené. Maintenant, c'était clair pour lui les choses de Dieu. Maintenant, c'était clair pour lui ce que Jésus avait fait pour lui. Et quelques jours après, il commence le ministère. Il était en garde midi à Bruxelles. Il prêche la parole. Il y avait un paralytique qui était là. Il dit au paralytique, lève-toi et marche au nom de Jésus. Le paralytique se lève et marche. La gloire de Dieu se manifeste dans son ministère, dans son travail. Parce qu'il savait quoi raconter maintenant. Jésus l'avait transformé. Souvent, nous ne témoignons pas parce que nous ne savons pas quoi raconter. Tu vas raconter. Mais tu vas défendre une cause. Puisque dans ton cerveau, tu as compris que Jésus était le Fils de Dieu, dans ton cerveau, tu as compris que Jésus avait raison, c'est dans ton cerveau. Mais il n'y a pas une histoire avec le Seigneur. Et quand j'ai dit histoire, Maurice Ray n'a pas vu le Seigneur. Mais le Seigneur l'a rencontré. Quand il a fait la prière avec l'aîné pasteur, quand il a reconnu son tort, quand il a reconnu qu'il ne s'était jamais converti, Dieu l'a rencontré en ce moment-là. Et le soir, il reçoit ce passage-là et l'action du Saint-Esprit commence dans sa vie. Il peut raconter ce qui s'est passé dans sa vie. Il est motivé par ce qu'il a vécu. Mais j'étais pasteur, j'étais dans l'erreur, j'étais dans la perdition. Mais Dieu m'a sauvé. Voilà, il peut vous sauver aussi. Amen. C'est ça le témoignage. On témoigne de ce qu'on a vécu. Mais les gens qui veulent, par exemple, il veut fabriquer un avion. Lui, il va amener un plan. Il va expliquer aux gens qui donnent l'argent. Voilà, cet avion-là pourra faire ceci, pourra faire cela. Il ne témoigne pas, il défend une cause. Il veut qu'on lui donne de l'argent pour construire l'avion. Mais nous, nous disons ce que nous avons vécu. Même Jésus, dans Jean chapitre 3, il dit à Nicodème, nous, nous parlons de ce qu'on a vécu. Mais vous ne voulez pas nous comprendre. Donc Jésus disait à Nicodème, moi, je viens du ciel. Je parle de ce que j'ai vécu au ciel. C'est un témoignage, alors que vous avez une doctrine que vous voulez défendre. Vous voulez défendre une cause. Nous, chrétiens bien-aimés, nous ne devons pas défendre une cause. Nous devons témoigner, dire la réalité. À partir de ce que j'ai vécu, j'ai compris que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Parce que quand il m'a visité, j'ai su que c'était ça. Comment il m'a visité? Voilà ce que j'étais, voilà ce que j'ai devenu, voilà comment il m'a transformé. Maintenant, je sais qu'il est le Fils de Dieu. Ah, c'est ça le témoignage. Parce que bien-aimé, tu vas convaincre qui? Il y a quelqu'un qui m'a dit, pasteur, il y a quelqu'un qui me demande si je, de lui prouver que la Bible, comment je sais avec certitude que c'est la parole de Dieu. Et là, il va commencer à la lire. J'ai dit à la personne qui m'a écrit ainsi, j'ai dit, il y a des éléments qu'on peut donner. Mais ces éléments-là peuvent être contestés humainement. Le vrai pouvoir de la Bible, c'est que quand quelqu'un va lire ça, il va entendre Dieu lui parler. C'est tout. Le pouvoir vient de la chose. Ça ne vient pas d'un système extérieur qui va prouver que la Bible est la parole de Dieu. Non, c'est Dieu lui-même qui va prouver que c'est sa parole. C'est en lisant. Il y a une histoire de délivrance, de salut là-bas. Nous devons, bien-aimés, raconter quelque chose. Et c'est en racontant ce que Dieu a fait avec nous que Dieu va mettre son esprit sur ça pour toucher les gens. C'est ce que j'ai voulu dire en cette lecture de Actes des Apôtres, chapitre 8. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit que les gens ont été dispersés par la persécution. Ce qui a amené Philippe où? Verset 5. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a prêché Jésus. Il a dit aux gens qui est Jésus. Comment lui sait qui est Jésus? Jésus l'a rencontré lui-même. Philippe avait vécu avec Jésus. Il savait qui était Jésus. Maintenant, il va présenter à tous que Jésus est le Messie. C'est ça témoigner. Dire qui est Jésus? Comment on dit, mais oui, mais comment tu sais? Mais parce qu'il m'a rencontré. Voilà la rencontre que j'ai eue avec lui. C'est ça témoigner. Présenter tout simplement Jésus. Aujourd'hui, les gens, ils témoignent en promettant des choses aux gens. Venez, campagne d'évangélisation, miracle. Bien-aimé, ce n'est pas écrit dans la parole de Dieu de tels propos. Nous devons présenter Jésus. Je crois que les gens ont honte de dire tout simplement une phrase. Ils veulent que Dieu les appuie par un environnement humainement extravagant, humainement épatant pour appuyer l'évangile. Bien-aimé, non. Parle avec ta voix, dis ce que Jésus est, et si on t'en demande plus, tu dis ce qu'il a fait pour toi. C'est Dieu lui-même qui avait appuyé après. C'est lui qui va venir appuyer. Qu'est-ce qui est écrit? On commence verset 5, c'est dit, Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Donc, quand il a prêché, les miracles ont suivi. Le Seigneur a défendu son nom. Nous ne devons pas demander les miracles avant de parler. Nous devons parler et les miracles suivront. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Aujourd'hui, nous voulons un système où Dieu doit d'abord faire les miracles, comme ça les gens sont convaincus. Mais comme on va, si vous lisez la suite, vous allez voir que quelqu'un a été convaincu par les miracles, mais finalement, il n'était pas vraiment converti. Simon le magicien, quand vous lisez cette histoire jusqu'au bout, c'est que les gens qui ont été convaincus, c'est les gens qui ont entendu les paroles de Philippe.
disons ce que Jésus est.
Lui-même, il défendra son nom. Qu'est-ce qui se passe dans Jean chapitre 1, 43-47? Jean chapitre 1. Pourquoi nous, nous disons ce que Jésus est? Mais nous le disons pour que ça sauve les autres. Nous le disons pour glorifier son nom. Comment nous le savons? Nous avons une histoire avec lui. J'ai une histoire avec lui. Jean 1, 43-47.
Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, « Suis-moi. » Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. »
On continue jusqu'à la fin.
« D'où me connais-tu ? » lui dit Nathanaël. Jésus lui dit, « Avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit et lui dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui dit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il lui dit, « en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. »
Amen, amen. Philippe dit à Nathanaël, « On a trouvé le Messie. » On a trouvé la solution, puisqu'Israël attendait le Messie. Il est là. Nathanaël dit, mais attendez, hein, attendez. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe, qu'est-ce qu'il lui répond? Viens, viens voir. Viens toi-même le voir. Tu sauras. Et quand Nathanaël vient, Jésus lui donne une parole de connaissance. Nathanaël est démystifié, il est déstabilisé, il réalise qu'il a en face de lui le Messie. Il loue le Seigneur. Tu es le Fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. Jésus dit, mais ça c'est rien, vous allez voir de plus grandes choses. Parce que je ne suis pas encore crucifié. Le jour où je serai après ma crucifixion, vous allez voir de plus grandes choses. Amen. Qu'est-ce qu'on apprend par ce texte? C'est ce qui se passe dans Actes des Apôtres, chapitre 8. On présente Jésus. Jésus lui-même fait quoi? Il défend son nom. On présente Jésus et c'est Jésus qui va convaincre. C'est Jésus qui parle à Nathanaël. Philippe lui a dit, moi je te présente. Après la suite, c'est lui. Bien-aimés, soyons dans l'assurance. Soyons dans la tranquillité. Présentons Jésus. N'inventons pas les miracles comme on voit aujourd'hui. On invente les miracles. On veut inventer les choses, les prophéties, les choses. Bien-aimés, Dieu est tout puissant. Vous savez, quand le temps de quitter la prison est arrivé pour Joseph, Dieu a fait rêver Pharaon. Dieu est tout puissant. Joseph était devenu administrateur d'une prison. Mais est-ce que c'était ça son appel? Non. Il a voulu sortir par lui-même. Est-ce que ça a marché? Non. Il a demandé à une personne à qui il avait fait une bonne explication de songe, qui sortait de prison. Il lui a dit, mais comme tu travailles auprès de Pharaon, parle pour ma cause auprès de Pharaon, qu'il me libère. Mais qu'est-ce qui est écrit dans la Bible? Cet homme a oublié Joseph. Il a oublié. Mais bien aimé, mais il est resté en prison. Mais quand Dieu a dit, maintenant c'est bon, il a fait rêver Pharaon. C'est pourquoi c'est écrit dans Proverbe 21, 1er, le cœur du roi est comme un courant d'eau entre les mains de l'Éternel, il incline où il veut. Quand il a voulu libérer Joseph, il a fait rêver Pharaon. Pharaon était perturbé par le rêve, il fallait l'explication. Joseph vient donner l'explication et devient premier ministre. Bien-aimés, attendons que la puissance de Dieu se manifeste. Dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, il dit, attendez à Jérusalem. Nous ne devons pas inventer la puissance de Dieu. Forcer la puissance de Dieu pour pouvoir avoir de quoi témoigner, pour impressionner les gens. Non. Disons ce que Jésus est. Pourquoi? Parce qu'on a une histoire avec lui. Ton histoire n'est pas suffisante. Ou alors tu n'as pas d'histoire avec lui. Présente Jésus. Si les gens veulent des explications, tu racontes ton histoire. Voilà comment je l'ai rencontré. Voilà comment il a transformé ma vie. Et je sais maintenant que j'irai au ciel. Ah! C'est ça témoigner le Seigneur. Aujourd'hui, on veut inventer les choses. On veut faire les choses en grand. Épater les yeux pour pouvoir convaincre les gens de la parole. Ah non! Épater les yeux par des miracles pour pouvoir convaincre les gens de la parole. Non! Il est écrit dans Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Dieu a mis la puissance dans sa parole pour convaincre. Et sachant que lui-même va défendre sa parole. Donc quand Philippe amène Nathanaël, Jésus lui-même défend la présentation de Philippe. Dans Actes des Apôtres 8, quand... c'est encore Philippe? Ah oui, mais ce criot, je n'avais pas vu les choses ainsi. Donc, encore, Actes des Apôtres, chapitre 8, il présente Christ. C'est toujours lui encore. Mais quand je préparais, je n'avais pas pensé que c'était encore lui. Mais Philippe vient encore présenter Jésus. Il présente Jésus. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il défend son nom par les miracles. Donc Philippe avait compris. Je présente Jésus. C'est tout. Bien aimé, présentons Jésus. Mais pourquoi on présente mal? Parce qu'on présente sans assurance. Peut-être parce qu'on n'a pas d'histoire. Ou bien parce qu'on a une histoire, mais on est en colère pour quelque chose d'autre. Alors là on passe à une autre étape. Est-ce qu'on a une vraie communion avec le Seigneur? L'évangélisation, le témoignage viendra aussi de la communion avec le Seigneur. Il a dit à Paul, tu vas raconter les choses que tu as vues et d'autres choses pour lesquelles je t'apparaîtrai. Donc ça veut dire que Paul devra conserver une communion de tout instant avec le Seigneur. C'est pourquoi Paul nous donne le conseil 1 Thessaloniciens 5, 17, prier sans cesse. Notre communion avec le Seigneur, c'est ça qui va faire qu'on témoigne ou pas. Lorsqu'on est en communion véritable avec le Seigneur, il va nous apparaître, il va nous dire des choses, il va faire des choses, le ciel va se manifester et on racontera ce que le ciel est en train de faire dans notre vie. On racontera ce que Dieu est en train de faire. Comme on a chanté tout à l'heure, ce que Dieu a fait pour moi. Si je raconte, c'est long, mais donc je raconte déjà le peu que je peux raconter. Parce que j'ai une communion avec lui, je marche avec lui, je vis avec lui, il résout mes problèmes. Je vis avec lui, je sens l'avant-goût du ciel. C'est de la communion avec le Seigneur, c'est dans la prière que Jésus va renouveler sa puissance. Il a dit, vous recevez une puissance. Mais cette puissance vient comment? Dans la prière, parce que avant, quand on a dit à Jésus, mais pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Pourquoi ils ne prient pas? Pourquoi Jésus leur a dit, mais comment ils vont jeûner alors que moi je suis là? Tant que je suis là, ils vont me dire la chose, je fais la chose. Le jour où je ne serai plus là, ils prieront et ils jeûneront. Voilà. Donc, la prière, ça sert à être avec le Seigneur, à faire venir le Seigneur avec nous, à laisser le Seigneur agir avec nous. C'est ça la prière. Ce n'est pas la quantité de paroles qui compte, c'est la conscience que ce que le Seigneur dit dans sa parole est vrai. C'est ça la prière. La prière, ça sert à inviter le Seigneur à nouveau dans nos vies, à chaque fois, l'inviter. Et quand on l'invite, il agit, ça nous crée des témoignages, ça nous, comme il a dit à Paul, je t'apparaîtrai pour d'autres choses. Donc il ne nous apparaît pour autre chose, nous continuons encore à témoigner, à présenter, au fait témoigner, on présente Jésus. Quiconque veut savoir plus, selon les circonstances, on raconte ce que Dieu a fait pour nous, les histoires qu'il est en train, que nous sommes en train de vivre avec lui. C'est ça le témoignage. Vérifions, soit on n'est pas converti, on n'a pas eu vraiment d'histoire avec le Seigneur, soit on a eu vraiment une vraie histoire avec lui pour notre conversion, mais cependant on est étouffé par les épines des soucis, des choses de la terre. on a perdu le premier amour. C'est pourquoi on a perdu aussi le feu. Il a dit à l'église d'Éphèse, dans Apocalypse chapitre 2, « Souviens-toi donc de ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu le premier amour. Tu n'as plus le premier feu, tu n'as plus d'histoire, parce que tu es étouffé par les choses de la terre. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Est-ce que tu vois le christianisme comme avant quand tu t'étais converti ? Non, tu es dans le christianisme qui voit les choses d'une manière matérielle. Tu veux le grand nombre, tu veux les grosses sommes d'argent. Tu veux le succès, comme on dit aujourd'hui, il faut impacter ta génération, des fausses prédications. Qui doit impacter ? C'est Jésus lui-même qui impacte toutes les générations. Voilà, c'est Jésus qui est notre gloire. Ce n'est pas nous-mêmes. Donc quand on te dit tu dois impacter ta génération, c'est du mensonge, c'est de l'orgueil. C'est ce que Satan a proposé à Jésus. Jésus a dit, je sers que mon Père, c'est lui que je sers. Attention bien-aimés. La communion de beaucoup s'est effritée. Ils n'expérimentent plus la gloire de Dieu dans leur vie parce qu'ils ne mettent pas foi systématique en Dieu dans tout. Il y a des choses qu'eux-mêmes veulent régler. Voilà ce qui fait que Jésus n'est pas à 100%. Or, si on reste comme un enfant avec le Seigneur tous les jours, on lui soumet tout. Chaque jour, on va vivre des merveilles. Chaque jour, on va vivre des réalisations. Chaque jour, on va vivre des miracles. Amen. Il y aura beaucoup de choses à raconter. Il y aura beaucoup de choses à raconter. Tu vas raconter comment tu as prié le soir pour une facture, le lendemain, Dieu a payé la facture. Tu vas avoir beaucoup de choses à raconter. Tu vas raconter comment quelqu'un était en colère comme toi, tu as prié, il s'est calmé. Tu vas voir. Et toutes ces choses-là vont bouillonner en toi. Donc la main de l'Éternel est agissante sur toi et tu peux raconter. Qu'est-ce qui a fait que Nathanaël a dit, tu es le Fils de Dieu? Quand Jésus lui a donné une parole de connaissance, il a dit, mais attends, j'étais loin, caché là-bas, il m'a vu. Lui n'est peut-être que le Fils de Dieu, roi d'Israël. Et nous, donc, en quelque sorte, Nathanaël a évangélisé, quoi. Il a dit, ah non, c'est le Fils de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il a vécu des choses avec le Seigneur. Maintenant, nous ne sommes pas en train de dire que ces choses que nous vivons avec le Seigneur, c'est ça qui est prédominant. Non, c'est le Seigneur lui-même. Mais les choses que nous vivons avec le Seigneur nous font comprendre que Jésus est le Fils de Dieu, le Sauveur, le Dieu vivant, le Dieu d'amour. Il y a des choses qu'on vit avec le Seigneur, on se dit, mais comment moi, il a pensé à moi? Qui suis-je? Il m'aime, il me connaît. On est étonné, mais on comprend qu'il est le Dieu d'amour. Au fait, les choses que nous vivons, la communion que nous avons avec lui, nous aide à davantage être dans l'assurance dans ce que nous avons cru. Mais le plus important, c'est ce que nous devons croire, que Jésus est le Fils de Dieu. Et tout ce qu'on a vécu avec lui nous a amené à ça. Lisons Jean 20. Vous savez, j'en parle tout le temps de ce passage-là. Jean 20, 30 à 31. Beaucoup vont finir par mémoriser ça. Jean 20, 30 à 31. Je ne cherche pas à insister sur les expériences avec le Seigneur. J'en parle dans le sens que c'est ça qu'on doit témoigner. C'est cette histoire-là qu'on a avec lui qui nous pousse à témoigner. Qui nous pousse à dire qui est Jésus. On ne veut pas venir présenter nos histoires. On dit qui est Jésus. Mais les gens veulent en savoir plus. Mais roi Agrippa, c'est ce que Paul dit. Mais moi, roi Agrippa, vous vous étonnez que je parle de la résurrection. Vous vous étonnez que je vous parle du Fils de Dieu qui est venu nous sauver. Mais je vais vous expliquer mon histoire. Voilà comment je l'ai rencontré. Amen. C'est ça l'histoire. Et donc nous lisons Jean 20, 30 à 31.
Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom.
Amen. L'important, c'est Jésus lui-même. Mais les choses que nous avons vécues, c'est ce que Paul Jean dit. Jésus a fait beaucoup plus que ça. Mais nous vous présentons ça afin de vous amener à réaliser que Jésus est le Fils de Dieu. Nous ne vous présentons pas ça comme si c'était un butin de guerre, les miracles du Seigneur. C'est pour dire, il est vraiment ça. Regardez ce qu'il a fait. Il est vraiment le Fils de Dieu. Donc quand quelqu'un a expérimenté ça, il explique, il défend, il en parle. Personne ne lui met la pression. Regardons bien, beaucoup ont leur joie qui a été volée par les problèmes de la vie, leur joie qui a été volée par des pressions, des persécutions, leur joie qui a été volée par des apparents échecs, mais en réalité, c'est parce qu'ils ont perdu le premier amour. Ils ont perdu aussi la première foi en Jésus. Hein? On sait que tout est possible à celui qui croit. Voilà. Tout est possible à celui qui croit. Et quand on perd cette foi de jeunesse, quand les problèmes arrivent, ben, on a du mal à appliquer Psaume 112, verset 7. Le juste ne craint pas les mauvaises nouvelles. Parce qu'on a perdu la foi jeune qu'on avait en la toute capacité du Seigneur. Revenons dans la vraie communion, revenons dans la prière. Vous savez, la puissance viendra du Saint. C'est écrit qu'on va clôturer avec ce passage dans Jean 7, 37 à 39. Bien-aimés, ne cherche pas à épater les gens. Sois toi-même épaté par le Seigneur. C'est ça que le Seigneur veut te dire aujourd'hui. C'est toi qui dois être épaté. Ne cherche pas pour témoigner que toi tu épates. Non. C'est toi qui dois être épaté. Si tu es épaté par le Seigneur, tu en parleras ouvertement. Au fait, les fleuves d'eau vive couleront de ton sein. Ça ne sera pas à l'extérieur pour épater, mais ça viendra de toi. C'est toi qui, quand tu vas parler, les gens vont dire non. Nous croyons que cet homme est vraiment touché. Il y a quelque chose qui s'est passé en lui. On va s'intéresser à savoir c'est quoi. Qui est ce Jésus-là? C'est ce qu'on a dit à Paul quand il défendait, il dit mais Paul, tu risques de m'amener à la conversion. C'est ce qu'on a dit à Paul. Paul a dit, mais c'est ce que je veux, que tu viennes à la conversion. Oui, nous lisons.
Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture.
Amen, amen. Il parlait ainsi.
Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié.
Amen. Il dit, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, celui qui a soif. Donc aujourd'hui, ma prière, c'est quoi? Qu'on retrouve la communion avec le Seigneur. Retrouvons, souviens-toi d'où tu es tombé. Où tu as laissé ta communion? Où est le Dieu que tu professais, dont tu parlais partout? Avec sourire, avec joie. Il est parti où? Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Retrouve la communion avec le Seigneur. Retrouve la soif de sauver l'humanité. Il dit, demandez-moi les nations, je vais vous les donner en héritage. Retrouve cette soif. Retrouve le Seigneur. Cherchons-le dans la prière, cherchons-le. Cherchons-le. Disons, Seigneur, mon histoire ne s'est pas arrêtée. Tu as dit à Pierre, à Paul, et pour d'autres choses pour lesquelles je t'apparaîtrai, eh bien, continue, Seigneur, à nous apparaître. Relance-nous. Qu'est-ce que les gens ont dit dans Actes des Apôtres, chapitre 4, quand ils ont été fouettés? Ils ont dit, Seigneur, regarde comment les gens critiquent ton oin. Nous voulons, Seigneur, que tu déverses ta puissance, que tu te manifestes par des prodiges, par des miracles, et en nous donnant l'assurance. Ils ont dit, donne-nous l'assurance, on le chante. Donne-nous l'assurance. Ils ont dit ceci, acte 4, chapitre 23.
Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent : Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton oint, serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. »
Voilà. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Il dit, « Seigneur, et maintenant Seigneur, puisque les gens ne veulent pas nous écouter, puisque les gens nous combattent à cause de ton nom, de quoi nous avons besoin ? Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs quoi ? D'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Nous avons besoin de l'assurance. L'assurance viendra de notre communion avec le Seigneur, de notre histoire de tous les jours avec lui. Tu sais, il est là à tes côtés. Tu sais qu'il est là. On a besoin de cette assurance pour pouvoir maintenant annoncer la parole. Et on dit, Seigneur, pendant que nous annonçons la parole, étends ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus-Christ. Amen. C'est ça, bien-aimé. Retrouvons le feu. Retrouvons le feu. Cherchons le Seigneur. Ne serait-ce que dans notre communion de tous les jours, retrouvons une vraie communion avec lui. Où on prie pour tout. Pour tout ce qui se passe, on prie. Où on veut son intervention dans tout. De sorte qu'on n'est jamais surpris. Parce qu'il est toujours là. On a de l'assurance. Mais on peut témoigner. Si on a perdu tout ça, repentons-nous. Demandons l'aide du Seigneur. Qu'il nous relance dans une marche quotidienne dans le fleuve d'eau vive. Le fleuve d'eau vive couleront de ton sein. C'est toi qui vas être épaté et de ton sein, la joie va sortir. Mais tu vas être épaté comment ? Par tes prières. En priant, le Seigneur, il va agir et tu vas être touché, toi. En priant, le Seigneur, il va te pardonner. En priant le Seigneur, il va te donner la victoire sur le péché. En priant le Seigneur, tu vas avoir une communion, une fusion en toi. Vous savez, le soleil, c'est quoi ? C'est une fusion de matière. La matière, ça brûle à haute température et ça sort la lumière. Il faut qu'il y ait cette fusion en nous. Quelque chose qui brûle, ta personnalité brûle. Ton égoïsme brûle, le feu de Dieu fait que finalement ça jaillit en lumière. Toi, tu es diminué, tu es brûlé, mais ça produit la lumière pour les autres. Nous refusons le brisement, nous refusons les épreuves, nous refusons les choses même qui doivent nous amener à chercher la face de Dieu et que tout brûle et que la lumière jaillisse au nom de Jésus-Christ. Allons plus loin avec le Seigneur. Amen.